Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir une nouvelle venue à l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine. C'est Éléonore Darmon qui vient d'être nommée il y a quelques mois au poste de violon solo super soliste de l'orchestre. Bonsoir Éléonore et bravo.
Merci, bonsoir Dominique.
Alors avant de parler de vous, je propose de vous entendre dans un extrait de votre premier CD dont on parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail.
Thank you.
C'était le prélude et allegro de Fritz Kreisler dans l'interprétation de mon invité de ce soir, Éléonore Darmon, accompagnée par le pianiste qui l'accompagne habituellement et qui s'appelle Antoine de Grollet. Alors Éléonore, cette nomination à Nancy, ça n'a pas un petit peu Arthur aux sources pour vous, puisque vous y êtes née à Nancy il y a un peu moins de 40 ans, et c'est très tôt qu'on vous met au violon. Alors parlez-nous un petit peu de vos études au Conservatoire de Nancy.
Oui, alors, il faut savoir, je n'ai même pas commencé par le violon, même si j'ai commencé très tôt. Ma mère étant pianiste et chanteuse, m'a mis, on va dire, à la musique, de manière plus générale, dès l'âge de 3 ans. Donc j'ai fait pas mal d'initiations en chantant, sur le piano, dès l'âge de 3-4 ans. Et on écoutait énormément de musique à la maison, et j'ai commencé à mettre les doigts sur un violon à l'âge de 5 ans. Je suis ensuite rentrée au conservatoire de Nancy, dans la classe de Véronique Dominger, et puis un petit peu plus tard dans celle de Marthe Tercieux, donc ces deux professeurs qui m'ont accompagnée jusqu'au moment d'entrée au conservatoire de Paris, au CNSM.
Et alors pendant cette période où vous étiez à Nancy, vers l'âge de 10 ans, vous avez fait une chose qui est un peu extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez joué pour l'école des fans.
Oui, alors ça me fait toujours rire de revenir là-dessus. On va dire que c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie et qui va continuer de me suivre. Alors oui, je m'en souviens, mais c'était il y a vraiment longtemps. Donc c'est plutôt... J'ai l'impression que c'est une autre personne maintenant. On m'en a tellement parlé vu de l'extérieur. Voilà, pour moi, je n'ai pas du tout trouvé à l'époque que c'était quelque chose de fantastique ou d'extraordinaire, en fait. Je ne connaissais même pas l'émission. Donc je me suis retrouvée là un peu... parachuté.
Et c'est là que vous avez rencontré pour la première fois Ivry Gitlis quand même.
Alors je dois dire que ça n'était pas la première fois, car il y avait une rencontre qui s'était faite au conservatoire de Nancy quand j'avais 8 ans. Donc je me souviens que probablement il y avait eu un concert avec Ivry Gitlis qui était venu et j'avais préparé des petites notes pour mon école, parce qu'à l'époque on faisait un journal dans l'école et donc j'étais très très fière de pouvoir faire une interview avec une personnalité. Et j'avais fait relire mes notes, une petite anecdote, c'était assez drôle. Donc dans les notes que j'avais fait lire à Véronique qui corrigeait avant qu'on puisse poser des questions au grand maître. Hein. J'avais demandé, êtes-vous rentré au conservatoire de Paris? Elle m'avait dit, mais non, mais c'est pas possible de lui demander ça. Bien sûr qu'il est rentré au conservatoire de Paris.
Ben oui, non, mais quand on est petit, c'est normal, on pose des questions de son âge. Hein. Alors, on va peut-être écouter justement Ivry Gitlis avec Martin Argerich. Thank you.
C'était le premier mouvement de la sonate pour violon et piano de Claude Debussy par Ivry Gitlis et Martha Argerich.
Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Alors Éléonore Darmon, les choses vraiment sérieuses vont commencer pour vous dès l'âge de 15 ans puisque vous rentrez au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, qui s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque.
Si, je pense, ça s'appelait... déjà c'était le CNSM de Paris, je crois que c'est... Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait.
Alors vous allez travailler avec quel professeur et pendant combien d'années ?
Alors, en tout, j'ai passé 6 ans là-bas, donc j'ai fait un cursus normal. Alors, c'est plutôt le nom des cursus qui a changé, puisque ça ne s'appelait déjà plus le prix, mais le diplôme de formation supérieure, et maintenant, on est passé dans un autre système. Donc, moi, j'ai donc passé le diplôme de formation supérieure, donc j'ai eu avec une mention très bien. Et ensuite, j'ai continué en étant admise au cycle de perfectionnement violon concertiste, voilà, qui durait 2 ans. Et donc j'ai travaillé au conservatoire avec Gérard Poulet, puis avec Michael Hens.
Et alors vous avez eu l'opportunité de rencontrer, je suppose, des tas de personnalités différentes, des violonistes, mais aussi d'autres musiciens.
Oui, alors énormément de monde, je dirais autant des professeurs que d'autres étudiants qui sont tout à fait extraordinaires également. Alors peut-être une très très grande dame du piano et de la musique de chambre, Daria Ovora, qui était vraiment une bouffée d'oxygène, une personne d'une générosité absolument incroyable, avec qui j'ai joué ma première truite de Schubert. Voilà, et puis d'autres personnes aussi, Vladimir Mendelssohn à l'alto. Voilà, et puis c'est difficile d'en citer, il y en a tellement.
Je comprends bien. Et puis vous avez rencontré également Pavel Vernikov. Alors parlez-nous peut-être un peu de ce personnage qu'on ne connaît pas très bien.
Alors c'était au sortir de mes études au conservatoire, donc j'avais, 20 ans peut-être. Donc j'ai rencontré lors d'un stage d'été, je me suis dit allez... Je m'inscris toujours. J'aime bien m'ouvrir et rencontrer du monde à chaque fois parce que de nouvelles vues sur l'instrument. Et c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment une superbe rencontre. Donc je l'ai rencontré à Vienne. Tout de suite, le courant est extrêmement bien passé. Il m'a dit de continuer de le suivre l'été même où il donnait également des masterclass en Italie. Et ensuite, j'ai continué d'étudier avec lui pendant 3 ans. Voilà, donc c'était vraiment un nouvel éclairage, donc tout d'abord en Italie, à Fiesole, donc un petit village au-dessus de Florence. Donc ça, c'était vraiment une période remarquable. À chaque fois, on avait des cours pendant une semaine, hein, tous les mois, pendant une semaine, j'avais des cours avec lui, avec différents assistants et d'autres professeurs qu'il faisait venir en masterclass. Voilà, et puis il m'a fait participer aussi à plusieurs festivals, dont le festival d'Elat en Israël, où à l'époque il était directeur artistique, donc il m'a donné l'occasion de me produire à côté de Misha Maïski, par exemple.
Et qu'est-ce qui vous a apporté ?
C'est difficile de dire ça en quelques mots, je dirais... Ce que j'ai trouvé vraiment incroyable lors de mes rencontres, c'était un petit peu l'évocation d'un monde musical juste en quelques sons. Je vais essayer de... Par exemple, on joue un concerto de Mozart, jouer peut-être 3 notes et directement, je voyais Vienne, je voyais le... Voilà, je dirais que c'est vraiment une question de style des œuvres. Voilà, après, concerto de Sibelius, quelques sons, et je me retrouvais au fond de la Finlande. Même des pays dans lesquels je n'avais jamais été, d'un seul coup, tout était beaucoup plus clair dans mon esprit. Donc, c'est vraiment ça. Et puis après, d'autres moyens, toujours développer des moyens techniques pour aller plus loin dans toutes les idées musicales qu'on peut avoir.
Eh bien, je propose qu'on écoute Pavel Vernikov dans un extrait du trio de Tchaïkovski, le trio élégiaque. Thank you.
C'était un extrait du trio élégiaque de Tchaïkovski avec au violon Pavel Vernikov et le trio Tchaïkovski.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Nous sommes toujours avec Éléonore Darmon qui vient d'être nommée, je vous le rappelle, violon solo super soliste de l'orchestre de l'Opéra National de Lorraine.
Alors après ces années de formation au CNSM de Paris, vous allez rentrer dans la vie active. Alors, vous allez faire des tas de choses. D'abord, beaucoup de concerts en soliste, je crois.
Oui, alors, j'ai toujours du mal à me dire que, bon, alors d'abord, il y a des études en musique, et puis d'un seul coup, on rentre dans la vie active. En fait, ça se passe pas vraiment comme ça. On commence déjà à jouer bien avant d'être sorti, et après être sorti, on continue d'étudier toute sa vie. Donc, la transition, elle se fait vraiment de manière très, très fluide. Alors, peut-être une rencontre, comme vous parlez de jouer en soliste. C'est assez drôle parce que mes tout premiers concerts en tant que soliste officiel, je les ai faits quand j'étais vraiment, c'était mes tout débuts au Conservatoire de Paris, où j'étais déjà engagée par l'orchestre de Nancy, donc à l'époque, ça devait être l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy, voilà, si je me souviens bien du titre, où Sébastien Langlessing, donc le chef d'orchestre, m'avait invité à venir jouer le concerto en mi mineur de Mendelssohn. Donc, j'avais fait 3 concerts pour l'ouverture de saison. Je crois que c'était en 2002. Donc ça remonte, voilà, c'était encore le début de mes années au Conservatoire de Paris. Suite à cela, j'ai eu d'autres engagements et notamment une rencontre avec Paul Kuentz. Donc la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Cap d'Aille. Je participais à un stage que donnait mon professeur du Conservatoire de Nancy, Marthe Tercieux. Et donc ce chef d'orchestre venait avec son orchestre donner des concerts là-bas, et donc j'avais 11 ans, et les premières fois que je l'ai rencontré, j'ai joué un petit peu avec lui, c'était à cet âge-là. Et puis, il m'a ensuite engagée à jouer pas mal de concertos, et notre collaboration dure encore jusqu'à présent. Donc on a vraiment joué énormément de répertoires ensemble, hein. Donc bien sûr, on a repris le concerto de Mendelssohn au début, et puis Tchaïkovski, Brahms, double concerto de Brahms, et puis des tas de concertos, bien sûr tous les concertos de l'époque baroque, les Bach, les concertos de Vivaldi, les 4 saisons. Plus récemment, on a rajouté le concerto de Max Bruch, également le rondo de Schubert pour violon et cordes. Et puis, Paul Kuentz, il a toujours de nouvelles idées. Donc voilà, on est toujours sur une ouverture et découvrir de nouvelles choses. Voilà.
Et alors l'orchestre dans tout ça, vous y êtes arrivé relativement tard?
Alors l'orchestre en tant que tel, en tant que musicienne à l'intérieur et non pas en tant que soliste, oui, j'y suis arrivée un peu plus tard. Alors bien sûr, pendant mes années conservatoires, j'ai joué un petit peu à l'intérieur de l'orchestre, mais ensuite, quand je suis partie un petit peu à l'étranger, j'ai arrêté tout simplement parce que c'est très difficile en tant que musicien de passer à côté du répertoire symphonique, c'est vraiment une montagne magnifique et il faut absolument la gravir, la découvrir. Voilà, donc j'ai eu mes premières expériences avec orchestre professionnel, avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Et puis avec d'autres orchestres, et alors aussi bien dans les postes solo que les postes toutistes. Et je pense que c'est très très important de tout faire, aussi bien premier, second violon. C'est comme ça qu'on arrive à... Bah, plus ressentir l'orchestre de l'intérieur, connaître ses besoins, voir ce qui marche moins bien. Et puis, effectivement, maintenant que j'ai cette place de violon super solo, c'est peut-être la plus belle place dans l'orchestre. Mais je ne m'empêcherai pas de revenir peut-être jouer dans d'autres orchestres en tant que toutiste ou peut-être chef d'attaque des seconds, parce que je pense qu'on peut trouver du plaisir à n'importe quelle pièce, n'importe quelle place. Voilà, du moment que la musique est belle.
Alors, pour être un bon musicien d'orchestre, il faut quoi comme qualité ?
La première chose, je dirais que c'est l'écoute. Écouter tout ce qui se passe. Il faut être bon lecteur, bien sûr. Puis avoir beaucoup de patience et savoir parfois faire la part des choses entre ce qu'on ressent sur le moment et ce qui peut être bon sur le plus long terme. Parfois, on peut être... c'est la vie de tous les orchestres. Hein, on peut ne pas apprécier telle ou telle chose. Parfois, il faut savoir garder les choses pour soi et trouver une solution avant de parler des problèmes. Voilà, peut-être.
Et pour être un bon soliste, il faut quelle qualité ?
Ah, bah déjà, les mêmes qu'un musicien d'orchestre. Je dirais que pour moi, ce que je peux apporter, c'est que j'ai vu ce que c'était aussi que d'être derrière, donc dans les places, dans les violons du rang, et aussi bien les places devant, et également solistes. Et je pense qu'avec tout ça, je suis plus à même de répondre aux besoins des uns et des autres. Peut-être le problème dans un orchestre, c'est que les gens ne se comprennent pas forcément. Et là, justement, avec cette expérience, peut-être je serai plus à même... voilà, de respecter les vœux, les souhaits des uns et des autres.
Alors, on n'a pas parlé de musique de chambre encore, on va en parler, mais on va peut-être vous écouter déjà dans un nouvel extrait de votre premier CD. On écoute la méditation de Thaïs de Massenet. Thank you. C'était la méditation de Thaïs de Massenet dans l'interprétation de mon invité du jour, Éléonore Darmon, accompagnée toujours par son pianiste Antoine de Grolet. Alors, ce premier disque, Éléonore, vous l'avez enregistré où? Vous l'avez enregistré quand? Comment vous avez choisi votre programme, votre pianiste?
Alors déjà, je vais casser peut-être un mythe, c'est que je n'aime pas du tout enregistrer. Alors c'est vrai que mon premier disque est sorti, on va dire, relativement tard. J'avais fait quelques tentatives avant, mais je trouve que c'est tellement difficile de s'entendre soi-même. Donc on va dire, il a fallu vraiment que toutes les étoiles soient alignées pour que ça puisse finalement se faire. Alors déjà, je pense que c'était à peu près sûr que je voulais le faire pour ce premier disque avec Antoine de Grolet. Antoine de Grolet, on s'est rencontrés... je ne sais même plus, je compte plus les années, mais c'est vrai que directement, c'était, on s'entendait pour énormément de choses. Peut-être, allez, je vais raconter juste une petite anecdote. Il y a une sonate sur laquelle on n'a pas réussi à se trouver et on s'est dit qu'on la reprendrait plus tard. Et si ça se trouve, maintenant, on la reprendrait plus tard. C'est la sonate de Grieg. Voilà. Mais vraiment, pour tout le reste, je pense qu'on a joué vraiment énormément de répertoires ensemble. Ça marche très très vite. On est vraiment dans un flux, dans un dialogue où souvent on n'a pas besoin de se... On se parle très très peu en répétition, on joue énormément. Voilà. Ensuite, il fallait trouver un lieu. Et il se trouve que j'ai joué avec Emmanuel Rosfelder à la guitare. J'ai fait un concert avec lui. Et il m'a présenté donc sa femme, qui est également violoniste. C'est elle qui a fait la direction artistique de notre CD, donc très très bonne oreille. Et c'est un petit peu grâce à eux, c'est eux qui m'ont présenté un de leurs amis, qui s'appelle Marc Berdugo, qui m'a tout simplement invité chez lui pour enregistrer ce CD, et dans un endroit absolument extraordinaire. Alors simplement pour vous donner un petit peu le ton, c'est que rien que l'endroit où on a fait cet enregistrement, il a été bâti pour ça, et le salon a été fait selon les proportions du nombre d'or. Et tout est absolument incroyable pour l'acoustique. Voilà, donc on a bénéficié de ce lieu où on était vraiment tranquille. Et puis le programme pour un premier disque, moi j'avais besoin de me sentir à l'aise. Donc on a pris un peu nos pièces favorites avec Antoine pour ce premier disque.
Alors parlez-nous un peu d'Antoine, comme vous dites, parce que on l'entend, mais on ne le connaît pas bien.
Oh bah si, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent mieux que moi. Voilà, alors Antoine, je pense qu'il a étudié au CNSM de Lyon, et puis on s'est retrouvés par la suite, parce qu'il accompagnait ma petite sœur quand elle a passé son prix au Conservatoire de Paris. Voilà, donc je crois que la première rencontre s'est un petit peu faite comme ça. Et puis on est lauréats tous les deux de la Fondation Banque Populaire, hein, donc on a eu nos premiers concerts ensemble grâce aux occasions de la Fondation. Et puis, progressivement, lui, Antoine, il joue partout, il est extrêmement demandé. Il a un festival à Rabastens, pas très loin de Toulouse, voilà, qu'il a extrêmement bien développé, un festival de musique de chambre, voilà, dans lequel je me suis produite à ses côtés, et puis à côté d'autres musiciens de nombreuses fois, voilà. Mais non, c'est une personnalité extrêmement généreuse. Voilà, je pense qu'il peut jouer avec... il peut vraiment jouer tout et n'importe quoi. Il peut jouer un concerto... comme il peut jouer n'importe quoi en musique de chambre, en piano solo. Voilà, donc je suis extrêmement ravie de pouvoir jouer avec lui.
Eh bien, on va vous réécouter dans les danses roumaines de Béla Bartok. Thank you. C'était donc les danses roumaines de Béla Bartók par mon invité, Éléonore Darmon, et son pianiste, Antoine de Grolet. Alors Éléonore, votre vie musicale va donc être un petit peu plus implantée sur Nancy, mais ça ne va pas mettre un frein à toutes vos activités. Je suppose que vous avez beaucoup de projets en cours et à venir.
Oui, tout à fait. Alors, prochainement, puisqu'on parlait en off de l'enseignement, alors c'est vrai que je n'enseigne pas proprement dit dans un conservatoire, mais j'adore tous les projets pédagogiques. Et en mars prochain, je fais un projet avec le conservatoire de Chaville et celui de la ville d'Avray, où on propose les 4 saisons de Vivaldi avec l'orchestre du conservatoire, les professeurs qui vont être chefs de pupitre. Donc on a déjà eu plusieurs séances avec les enfants et je trouve ça extrêmement enrichissant. Donc ça, c'est un petit peu l'actualité qui va arriver. Et puis, je m'occupe également d'un festival de musique de chambre. C'est à Sagone, dans le Berry. Donc c'est un tout petit village de 150 habitants à peu près et un lieu absolument magnifique. Et on essaye de développer ça. Donc moi, je suis la directrice depuis 2014. Et chaque été, sur 3 jours, on essaye de faire 3 jours de musique où on invite une équipe, une équipe de musiciens. Et puis on partage ça avec des gens qui souvent n'ont absolument jamais entendu de musique. Et par exemple, le premier jour, ça a lieu en plein cœur de l'été. Et le premier jour du festival, on ouvre le festival avec un concert dédié à la jeunesse, avec les centres de loisirs qui amènent leurs enfants. Donc souvent, ce sont des enfants, leur premier contact. Ça fait partie des activités. Il y en a qui vont à la piscine. Et bien là, ils viennent écouter un concert qui leur était dédié. Pour cet été, je pense que nous avons prévu de faire l'histoire de Babar, le petit éléphant de Poulenc, dans une adaptation pour quintette. Et puis encore plein d'autres choses.
On peut avoir juste les dates ?
Oui, alors cet été, ce sera du 2 au 4 août 2024 à Sagone.
À Sagone, donc dans le Berry, un tout petit village. Et vous avez plein de monde, je suppose ?
Eh bien, on progresse. Alors, l'église n'est pas immense, mais chaque année, on a de plus en plus de monde parce que c'est surtout le bouche à oreille.
D'accord, très bien. Alors, pour terminer, on peut pas échapper à des questions qui concernent votre compagnon actuel. Je veux parler de votre violon, bien sûr. Alors, comment vous l'avez choisi, ce violon ?
Ah, c'est toujours une grande question hein, pour les violonistes, c'est très compliqué. Alors moi, j'ai trouvé mon violon peu de temps après la fin de mes études au conservatoire. Et puis on parle du violon, on oublie souvent que l'archet ouais. est vraiment très très important. Alors mon violon est un violon italien, donc c'est École de Milan, 18e siècle, donc on va dire... J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir jouer ce violon. Donc c'est un grand chino. Et mon archet, c'est un archet français parce que l'archeterie française est très renommée. Donc je joue sur un Sartori.
Et alors vous l'avez depuis quand ?
Eh bien depuis la fin de mes études. Donc je l'ai trouvé, j'essaye, de 2007. 2007.
Voilà. Et alors comment il est arrivé jusqu'à vous ce violon ?
Bon, ça faisait un an que je cherchais, donc j'en ai essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, quand j'ai mis les mains dessus, j'ai senti que j'aimais beaucoup la sonorité. Il n'était pas très puissant, mais je venais d'un violon français avant, mon violon d'études, qui crachait un petit peu. Donc j'avais plein de sons dans les oreilles et j'étais contente de changer, d'avoir un violon vraiment différent. Et en fait, c'était un violon qui n'avait pas été joué depuis presque une cinquantaine d'années. Donc il avait une très jolie couleur, un très joli timbre, mais pas beaucoup de puissance. Mais en le jouant, il a développé une énorme puissance. Donc voilà, je me dis pour un violon, bien sûr, je suis ravie de ce violon, mais il n'est pas à la hauteur d'un Stradivari ou d'un Guarneri. Et pourtant, j'ai mis plusieurs années avant de réussir. Et encore maintenant, je continue de le découvrir. Donc voilà, ça c'est simplement pour dire que quand on fait des tests avec des violons en aveugle et que ce sont des violons que les violonistes ne connaissent pas, je pense que c'est très très difficile en fait. On ne peut pas comparer les violons comme ça. Le mien, je sens qu'il a encore un potentiel non exploité. Et à force de le jouer, à force de le connaître, je continue de le découvrir.
Alors dans ce concert auquel vous allez participer, Léonore, il se passe des choses assez intéressantes pour vous au niveau du violon.
Oui, on joue vraiment un magnifique programme dirigé par notre chef la permanente Marta Gardolinska. Alors, on commence par une ouverture du compositeur Akimenko. Et ensuite, on va jouer donc les quatre derniers leaders de Richard Strauss. Alors, je me régale parce qu'effectivement, il y a un magnifique solo de violon, plusieurs même, dans cette œuvre. Et en deuxième partie, eh bien, nous jouons la quatrième symphonie de Gustav Mahler. Et il faut savoir que dans le deuxième mouvement, je suis obligée d'avoir deux violons. Parce que Gustav Mahler a demandé que le violon solo joue sur un violon désaccordé. C'est une sorte de danse macabre. Voilà, donc c'est vraiment intéressant d'entendre ces deux violons, le violon normal et le violon désaccordé, qui symbolisent vraiment une sorte... vraiment la mort qui danse avec ce violon.
Alors un instrument désaccordé pour un concert, c'est évidemment pas banal. Mais écoutez, on sera là. Merci encore et à très bientôt.
Merci Dominique.
C'était pour terminer cette émission, Éléonore Darmon, mon invité, Roby Lakatos dans le Xardas de Monti.
RCN, Tempo Classique, Dominique Breda.
Quelques annonces pour terminer. L'orchestre de l'Opéra National de Lorraine se produira, on en a parlé pendant l'émission, jeudi 1er février, vendredi 2 février à 20h, salle Poirel. Dans un concert intitulé Poésie céleste, avec des œuvres de Théodore Akimenko, compositeur et pianiste ukrainien né à Kharkiv, élève de Rimsky-Korsakov et professeur de Stravinsky. Les quatre derniers leaders de Richard Strauss avec en soliste Hélène Carpentier et la quatrième symphonie de Gustav Mahler dont nous a parlé Éléonore tout à l'heure. Ce concert sera dirigé par Marta Gardolinska, la chef permanente de l'orchestre. Les concerts de l'atelier chez le facteur d'orgue Jean-Baptiste Gopilla continuent à Novi-en-Houpré et ce samedi 3 à 17h15 et dimanche 4 à 15h15, un concert intitulé « Mariage de l'Orient et de l'Occident » avec Laurine Stulig, soprano, et Lavla Ramzan, pianiste. Et le lundi 5, au conservatoire à l'auditorium à 20h, Jeff Reno, mon invité de la semaine dernière, proposera un programme Liszt Wagner. Voilà, merci à Jean-Luc pour la technique. Bonne semaine à l'écoute des programmes de RCN et à la semaine prochaine.